France Inter.
Aujourd'hui, dans l'assiette de Néandertal, racontée par
Claire Viajaouen, géochimiste à Géosciences Environnement Toulouse.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Elle n'a l'air de rien, cette petite dent, une molaire minuscule trouvée dans une grotte espagnole, et pourtant elle a parlé mieux qu'un journal intime. Elle raconte l'histoire d'un enfant néandertalien, né il y a entre 100 000 et 43 000 ans. À peine sevré du lait maternel, ce bambin ne grignotait pas des baies ou des racines, il croquait déjà dans du cerf, du cheval ou du lapin. C'est la découverte en 2022 d'une équipe de chercheurs du CNRS qui est venue le prouver grâce à une méthode totalement nouvelle, l'analyse des isotopes de zinc contenu dans l'émail de la dent. C'est une première mondiale. Jusque-là, pour deviner ce que mangeaient les néandertaliens, les scientifiques regardaient le collagène des os, riche en azote. Mais cette technique ne fonctionne que dans certaines conditions et rarement sur des échantillons aussi anciens, d'où l'importance de cette trouvaille. Comment ça marche? Eh bien, plus un individu est haut dans la chaîne alimentaire, plus la concentration en zinc dans ses dents diminue. Et justement, chez ce petit néandertalien ou néandertalienne, les niveaux de zinc étaient très bas, ce qui signifie une chose claire: c'est qu'il était ou elle était carnivore. Mais attention, pas n'importe quel carnivore. Contrairement aux loups et aux hyènes du site, l'enfant ne buvait pas le sang de ses proies, il se contentait de la chair et probablement de la mousse, de la moelle des os. Peut-être la viande était-elle cuite ou simplement vidée de son sang, impossible à dire pour le moment. En tout cas, rien n'indique ici un comportement cannibale comme cela a pu être observé ailleurs, notamment en Belgique. Il serait pourtant trompeur de penser que tous les néandertaliens étaient accros à la viande. D'autres études ont montré une grande diversité dans leur alimentation. Certains en Espagne, par exemple, se nourrissaient plutôt de champignons, de mousse ou de pignons de pin. En Italie, certains les mêmes pêchaient pour manger des coquillages ou du poisson. D'autres encore, à l'image de l'homme de Spy en Belgique, préféraient les plats roboratifs comme le rhinocéros, les nœuds ou le mouflon. Les néandertaliens étaient donc des opportunistes capables d'adapter leur régime aux ressources locales, carnivores en steppe, cueilleurs en forêt, pêcheurs en bord de mer, un vrai talent de survie, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Claire Viajaouen.
Bonjour.
Vous avez un drôle de métier puisque vous cherchez à reconstituer l'alimentation des premières populations humaines pour mieux comprendre leurs conditions de vie, c'est bien ça?
C'est bien ça, exactement.
C'est votre travail au quotidien?
Oui.
Et vous vous intéressez plus particulièrement à Néandertal et Homo sapiens quand même un peu?
Oui, exactement. Ouais. Ouais. En fait, j'ai longtemps travaillé au département d'évolution humaine, à l'Institut d'anthropologie évolutive de Leipzig. Et c'est vrai que c'est l'endroit parfait pour faire de la recherche sur les néandertaliens et néandertaliennes et leur alimentation.
Est-ce que vous parvenez à explorer des échelles de temps très importantes ou est-ce qu'il y a des limites temporelles dans ce travail?
Eh bien, vous l'avez dit en introduction, lorsqu'on travaille sur l'alimentation et qu'on veut avoir des preuves directes de cette alimentation. Pendant longtemps, on a travaillé avec le collagène, puisque les éléments chimiques qui sont présents dans notre corps, ils sont apportés par nos aliments. Malheureusement, le collagène, c'est de la matière organique et ça va se dégrader au cours du temps.
Et ça peut se dégrader très très vite.
Ça peut se dégrader extrêmement vite dans les régions arides et tropicales, ce qui ne nous permet pas d'aller regarder l'alimentation d'anciens hominines, des australopithèques, ou enfin jusqu'à des échelles de temps récentes. Et pour Néandertal, on avait accès jusqu'à récemment, juste aux derniers Néandertaliens et dernières Néandertaliennes.
Et donc là, vous avez de nouvelles technologies qui permettent d'aller beaucoup plus loin. On va en parler avec vous dans un instant. Mais dites-nous quand même pourquoi c'est intéressant de se pencher sur les assiettes de nos ancêtres. Alors je comprends les Néandertaliens dans nos ancêtres.
Oui, l'alimentation, ça va nous dire énormément de choses sur les évolutions tant biologiques que culturelles. Ce qui intéresse souvent les paléoanthropologues, c'est une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du tissu coûteux et qui met en lien l'évolution du volume des cerveaux avec l'évolution de l'alimentation au cours de l'évolution. L'idée derrière cette hypothèse, c'est ça coûte beaucoup d'énergie d'avoir un gros cerveau et ça coûte beaucoup d'énergie de digérer des plantes. Et qu'en fait, la consommation, que les hominines se soient mis à consommer de la viande, ça a permis de libérer de l'énergie qui permette de supporter le coût de cette boîte crânienne un peu volumineuse. Donc ça, c'est au niveau de l'évolution biologique que ça peut être très intéressant. Et puis, l'alimentation, c'est très culturel. Donc, il y a aussi tout un intérêt autour de ça, de le documenter. Et ça nous dit beaucoup de choses sur la flexibilité qu'on avait ou non de s'adapter à des changements environnementaux.
Ouais. Et c'est très important quand on s'intéresse à l'histoire de Néandertal et d'Homo sapiens aussi, puisque Homo sapiens est la dernière espèce vivante et qu'il a côtoyé évidemment les Néandertaliens et Néandertaliennes. La question des choix alimentaires, des techniques de préparation aussi des aliments, de ces chasseurs-cueilleurs du paléolithique, ça fait toujours l'objet de pas mal de discussions chez les scientifiques. Il y a beaucoup de controverses là-dessus ou pas ?
Donc, oui, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que c'est très difficile de répondre à ces questions puisque les aliments souvent disparaissent, il ne reste que les ossements. Donc, il y a des indices de certaines façons de préparer les aliments. On voit des traces de découpe sur les ossements. On voit les outils qui ont été utilisés. Et puis, on a quelques indices, ça et là, une espèce de galette de pâte, de pain presque, carbonisée sur le site de Chanidar, où on peut voir aussi dans le tartre dentaire parfois des traces de cuisson qui ont été réalisées sur certaines plantes.
Donc ça, ce sont vos maigres indices.
Ça, c'est les maigres indices de mes collègues. Ouais. Nous, avec les isotopes, on a un débat sur est-ce que la viande était consommée pourrie, fermentée ou non.
C'est ça.
Puisque chez Néandertal, on a des valeurs un tout petit peu élevées pour les isotopes de l'azote. Donc plus ces valeurs sont élevées, normalement, plus ça nous donne l'indication d'un régime alimentaire carnivore. Mais là, les valeurs sont plus élevées que les carnivores. Ouais. Et pour expliquer cela, il y a plusieurs hypothèses. Et l'une des hypothèses, c'est cette consommation de viande fermentée, voire avec des asticots.
On va y revenir dans un instant. J'aimerais quand même qu'on s'arrête sur cette publication autour de cette dent d'enfant, retrouvée donc dans une grotte espagnole. Cette découverte, vous y avez participé. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez donc à cette dent en particulier ? Racontez-nous dans quel contexte d'abord ça a été découvert, ça. Vous meniez des fouilles ou vous êtes arrivé après en fait que la dent ait été mise au jour ?
Alors moi, ma formation, c'est celle d'une géochimiste, c'est-à-dire que j'ai étudié plutôt la composition chimique de la Terre et des planètes.
Vous n'êtes pas archéologue ?
Non, je ne suis pas archéologue, donc je ne sais pas fouiller, malheureusement, même si j'aime beaucoup aller sur les fouilles. Et ça, c'est des fouilles qui datent des années 90. Et donc, il y a quelques dents isolées qui ont été retrouvées. Et en fait, le contexte, c'est tout simplement que je travaillais sur le développement d'une méthode, l'isotope du zinc, pour essayer de reconstituer l'alimentation plus loin dans le temps, puisqu'on ne travaille pas sur la matière organique, on va travailler sur l'émail dentaire, qui est une forme de caillou qui va préserver des signatures de l'alimentation sur des millions d'années. Et donc, on était à la recherche de dents pour lesquelles le collagène n'était plus extrait.
Donc vous avez ouvert des tiroirs en fait, c'est ça ou
on
ça
a contacté les collègues sur des sites qui semblaient intéressants, et celui de Gabaza, c'était le cas, puisqu'on avait on savait que, enfin, à l'heure actuelle, il n'y a pas de données publiées en dehors d'une thèse sur du collagène sur la péninsule ibérique. Mmh. Et donc, c'était l'endroit parfait un peu pour prouver que notre méthode pouvait être intéressante.
C'est ça. Et une seule dent d'enfant, ça suffit pour savoir ce que mangeait ce petit dôme à l'époque.
Pour cet individu, oui, on est capable de donner le régime alimentaire de cet individu sur le temps au cours duquel cette dent s'est formée. Donc, dans les premières années de vie, là, on était sans doute entre 1 an et 3 ans.
Donc, c'est une molaire, c'est ça ?
C'est une molaire, exactement. Ouais. On peut le dire pour cet individu. Après, c'est vrai que tirer des conclusions sur toutes les alimentations néandertaliennes à partir d'une dent, ce n'est pas possible. Ouais. Mais en tout cas, avec les méthodes biogéochimiques et la enfin les isotopes, quel que soit le site, quelle que soit la période sur lesquelles on a pu obtenir des données, ça va toujours dans le même sens, une forte consommation de viande.
Ça, on va y revenir. Donc cet enfant vivait entre 100 000 et 43 000 ans. Voilà. Là, il y a aussi une marge d'incertitude.
Oui.
On ne connaît pas son sexe vraiment.
Non,
même pas du tout.
Il y a à partir d'une dent sans donner. Il y a eu pour cet individu, il y a quelques tentatives de sexage à partir de la forme de la racine de la dent, il me semble, qui irait plutôt vers un individu masculin, mais c'est vraiment très incertain.
Et donc cet enfant était carnivore puisque il croquait du cerf, du lapin ou du cheval dès son plus jeune âge.
Voilà.
Ça, on en est sûr. Mais ça, c'est inscrit dans la dent. Alors, il y a vraiment des traces.
Oui, comme je vous le disais, les éléments chimiques qui composent nos dents, nos os, sont apportés par les aliments. Et du zinc, on va en trouver un petit peu partout, un petit peu plus facilement mobilisable quand même dans les ressources animales. Mais ce zinc, il va s'intégrer à l'émail dentaire. Et il se trouve que le zinc peut être plus ou moins lourd. C'est ce qu'on appelle les isotopes. On va avoir des atomes lourds, des atomes légers. Mmh. Et dans les muscles des animaux, c'est un puits, c'est un réservoir d'isotopes légers. Donc si on mange des muscles, on va enrichir notre corps en isotopes légers. Et cet individu, il avait une composition extrêmement légère, si on peut dire, ce qui nous indiquait un régime alimentaire carnivore, et comme vous l'avez dit, probablement dépourvu de sang, ou avec très peu de sang par rapport aux autres carnivores du site.
Ce qui veut dire quoi, alors, concrètement, dans sa façon de manger si...
Alors ça, c'est compliqué pour moi, je suis chimiste de le dire, mais par exemple, quand on va découper une proie, il y a beaucoup de sang qui va couler. Donc, il existe des hypothèses qu'elles étaient récupérées dans des espèces d'outres en cuir. Mm-hmm. Bon, là, peut-être que finalement, c'était pas récupéré. On ramenait les quartiers de viande et qui allaient être consommés avec pas beaucoup de sang.
Est-ce que ces méthodes donc, d'analyse isotypique là, basées sur le zinc, est-ce que c'est très invasif pour l'objet qui est là-dedans, précisément? Parce que je sais que vous faites extrêmement attention parce que c'est très précieux, évidemment, une dent néandertalienne. Donc, est-ce que ça nécessite de faire très attention? Et qu'est-ce que vous prélever réellement sur la dent?
Alors, tout dépend de la méthode que l'on va utiliser. Et les méthodes vont être plus ou moins destructives. Et il y a vraiment, dans notre domaine, un soin à développer des méthodes qui le sont de moins en moins, ou voire, à partir d'un petit échantillon, d'essayer d'en tirer le maximum d'informations.
Mais c'est quoi, des poussières, quasiment, que vous prélevez?
Pour le zinc, on peut travailler sur Néandertal avec 5 mg d'émail dentaire.
Ah oui?
Qui n'a l'air de rien, mais ce qui se voit quand même.
Ouais.
Donc on perd de l'information quand même quand on l'échantillonne. Et sur le collagène, il nous faut généralement la racine de la dent. Donc c'est beaucoup plus. Mais sur le collagène, on peut travailler aussi sur les ossements. Donc c'est parfois moins grave de prendre un tout petit bout de côte par-ci, par-là.
Et donc grâce à ces milligrammes, vous pouvez raconter une histoire autour du régime alimentaire des néandertaliens et néandertaliennes. Vous êtes notre invité cet après-midi, Claire Viajaouen, et vous répondrez également aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour survivre pendant la froidure de l'hiver, Néandertal se nourrit principalement de viande. Il est le plus grand chasseur de la planète. Au petit matin, des cris d'animaux ont retenti près du campement. Des cris comme ils n'en ont jamais entendu. Et là, devant eux, descendant du nord, des animaux énormes, couverts de longs poils et armés de dents immenses. Toute cette viande si proche. Et comment faire pour les tuer? Le vieux fou est prêt à les affronter, mais cela ne rassure pas le chef.
Extrait du film Homo Sapiens de Jacques Malater en 2005, où il était question de néandertaliens dans cet extrait. Claire Viajaouen, vous qui êtes chercheuse en géochimie isotopique, c'est au laboratoire de géosciences et environnement à Toulouse. Et on découvre donc avec vous ce travail que vous menez autour de l'alimentation des humains préhistoriques et en particulier d'ailleurs des néandertaliens. Pourquoi d'ailleurs eux spécifiquement? Parce que vous nous le disiez tout à l'heure, à l'Institut Max Planck de Leipzig, où on s'intéresse beaucoup aux néandertaliens.
Exactement, c'est là où on avait Svante Paabo, qui
a reçu le prix Nobel.
Voilà, pour notamment ses travaux sur le génome néandertalien. Mais en vérité, on s'intéresse aussi à Homo sapiens, au paléolithique. Mais c'est vrai que je me suis surtout portée sur Néandertal, qui est présent depuis plus longtemps en Europe.
C'est
et,
ça.
Voilà.
Donc, vous aimeriez même peut-être aller encore plus loin, c'est ça ? Repousser les limites du temps pour même essayer d'explorer d'autres espèces bien antérieures à Néandertal ?
C'est tout le but des développements qu'on fait avec l'isotope du zinc, effectivement.
Et vous pourriez aller explorer quelles espèces, par exemple ?
Bien, par exemple, on pourrait aller regarder l'alimentation des australopithèques ou des paranthropes pour justement aller regarder cette hypothèse de, du tissu coûteux où on attendrait des régimes alimentaires plutôt végétariens chez les australopithèques et bien plus carnés au cours de l'évolution humaine.
Mais donc, vous pourriez, par exemple, nous en dire plus sur le menu de, ou l'alimentation de Lucie, par exemple, cette australopithèque de 3,2 millions d'années ?
A priori, on devrait être capable de le faire. Cela dit, j'ai aussi des collègues de Mayence qui ont développé une méthode, de nouveau à partir de l'émail dentaire, mais avec d'autres isotopes, les isotopes de l'azote, et qui viennent d'aller regarder ça. Donc, on peut le faire via plusieurs méthodes.
Ce qui veut dire que tout ce que nous mangeons nous-mêmes aujourd'hui va rester en fait inscrit dans la mémoire de nos dents, c'est ça aussi
exactement,
que ça veut dire ?
Exactement, mais ce sera peut-être compliqué d'interpréter l'alimentation si on a consommé par exemple des produits de supermarché qui viennent un peu de partout dans le monde.
Est-ce qu'il y a trop de choses en fait ? Il y a trop d'ingrédients
Alors c'est surtout que parfois on utilise ces mêmes isotopes pour dire d'où vous venez. Donc là, avec des aliments qui viennent de partout, ce sera plus possible. Ouais. Mais pour tout ce qui est proportion de viande et de végétaux, là, on est toujours capable de dire quelque chose.
Ouais. Clervia Jaouen, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle, par exemple, de Néandertal, c'est que lorsqu'on dit qu'il est carnivore ou par endroits végétarien ou même cannibale, ça correspond à des photographies, à des moments donnés particuliers. Parce que l'histoire de Néandertal étant tellement longue et tellement aussi variée d'un point de vue géographique, ce serait totalement idiot de dire qu'il n'a mangé que telle ou telle chose. Ce serait caricaturer en fait son repas.
Ce serait effectivement le caricaturer, parce que vous l'avez dit, il y a eu une longue période de temps pendant laquelle Néandertal était notamment présent en Europe, avec des périodes glaciaires, interglaciaires, donc des changements de température et des changements environnementaux auxquels il a fallu s'adapter. Cela dit, si vous posez la question à des isotopistes, ils vous diront quand même que le régime est resté assez carné pour tous les indices qu'on a pu récolter pour le moment.
Ouais, ça veut dire que voilà, ce qu'on voit pour l'instant, c'est que la viande composait quand même l'essentiel des repas ?
Oui. Ouais. Moi, les sites sur lesquels on a pu travailler, avec les limites dont on a parlé dans l'espace et dans le temps, qui n'ont pas encore été trop recherchées.
Il faut dire que c'était de très bons chasseurs.
Ouais.
Donc, évidemment, ils ont pu adopter tout un tas de stratégies qui leur ont permis de chasser, vous le disiez aussi, dans des conditions climatiques très différentes. Et alors, ils consommaient toutes sortes de viandes, ce qu'ils avaient sous la main en réalité, ou ils avaient quand même des choix particuliers selon précisément le climat dans lequel ils vivaient
Ben, vous l'avez dit, c'est une espèce qui a pu être opportuniste. Donc généralement, on voit quand même la consommation d'herbivores assez imposant. Mmh. Donc on va voir beaucoup de cheval, du renne, du mammouth. Mmh. Mais sur certains sites, on a documenté la consommation de poissons, de coquillages, de mammifères marins et aussi d'oiseaux.
Ouais, à même des oiseaux.
Oui, en Espagne, il y a un site par exemple.
Donc ils mangeaient absolument tout.
Oui, mais pas toutes les populations. Et... Ouais.
Est-ce qu'il était attentif au fait justement d'avoir un apport nutritionnel intéressant ? Est-ce que ça, on peut imaginer qu'en chassant, il privilégiait certaines proies en fonction de ça ou pas ?
Ça, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un besoin énergétique très important.
Ouais. Et ne serait-ce que pour aller à la chasse, d'ailleurs ?
Oui, et puis pour soutenir une forte musculature, un cerveau volumineux. Et donc, il y a tout un débat, notamment autour de... Comme c'est des alimentations très carnées, ça peut être toxique pour l'organisme de consommer beaucoup de protéines. Et donc, il y a peut-être un choix dans la consommation de lipides et extraire le maximum de lipides, par exemple des ossements avec des bouillies d'os qui ont pu être consommés pour pouvoir avoir une nutrition adaptée.
Ouais. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, ils mangeaient aussi, enfin ils faisaient du charognage, quoi, clairement, avec des morceaux de viande et des asticots. Mais comment vous le savez, ça, par exemple ?
Alors ça, c'est ce débat qui existe autour de ces valeurs un tout petit peu plus élevées en azote. Donc on a plusieurs moyens d'interpréter ces valeurs un peu plus élevées. Il a été avancé que c'était lié à la consommation de mammouths, parce que les mammouths eux-mêmes ont des valeurs en azote un peu plus élevées, qui sont liées aux plantes qui était consommé. Mais il y a une autre équipe qui a proposé que c'était lié à la fermentation de la viande, ou quand la viande pourrit, on va avoir une petite élévation en azote également. Et donc j'ai aussi une collègue aux États-Unis, Mélanie Bisley, qui travaille actuellement sur des cadavres et qui mesure la composition isotopique de la viande, et qui s'aperçoit qu'avec la présence d'asticots, on a aussi une élévation.
Super comme boulot.
Ouais.
Ouais. Alors, on peut imaginer que ça représentait aucun danger d'ailleurs pour la santé de ces néandertaliens à l'époque, de consommer ce type d'aliments.
Alors on sait qu'on a des exemples dans des sociétés traditionnelles de consommation de viande faisandée, fermentée, mais on va toujours avoir le risque par exemple de botulisme, c'est certain.
Concernant le poisson, on va écouter cet extrait d'un documentaire autour des chasseurs-cueilleurs. C'était sur Arte en 2022 et on va entendre la voix de l'archéobotaniste Tina Bardal.
Dans les niveaux de base, ce sont principalement des moules et des palourdes. Il y a des pinces de crabe, des conques, des patelles.
Au deuxième niveau, on a surtout des requins, des anguilles. Ce sont les premières traces de capture de requins.
Les Néandertaliens qui vivaient ici se nourrissaient à plus de 50% de produits de la mer. Ils pêchaient des poissons, ramassaient des mollusques.
Et là, c'était au Portugal, en l'occurrence, dans la grotte de Figueira Brava. Clervia Jaouen, pour parler aussi du poisson dans le menu de Néandertal. Ça, on en est sûr, vous le disiez tout à l'heure. Mais évidemment, ce sont des populations qui habitaient le bord de mer.
Oui, il existe en fait un débat autour de l'importance de cette consommation dans les régimes néandertaliens, parce que jusqu'à récemment, on voit surtout Sapiens spécialiste de ces consommations. C'est-à-dire que dès qu'on a la présence d'Homo sapiens sur les côtes, on la voit associée à des accumulations de mollusques. Et c'est pas vrai pour les autres hominines. Et donc, il a été proposé que justement ça aurait pu être en lien avec l'adaptabilité de notre espèce et le fait qu'on soit encore présent.
Ouais.
Et que finalement, cette consommation de ressources aquatiques chez Néandertal ait pu être plus anecdotique. Et ce qui est allé dans cette hypothèse, vers cette hypothèse pendant longtemps, c'est le fait que lorsqu'on allait regarder ces compositions isotopiques de collagène sur des sites dans les terres, eh bien on ne voyait jamais cette présence de ressources aquatiques dans les régimes néandertaliens.
Il y a un autre site en Espagne, Banyols, c'est ça, où on a un site catalan vu que les néandertaliens mangeaient quotidiennement là aussi des poissons séchés et même qu'ils conservaient leur peau. C'est d'ailleurs la question que j'avais envie de vous poser aussi pour la viande. Tout était conservé, tout était utile finalement sur une proie ou pas?
Alors a priori, tout était utile. Après, tout n'était pas utilisé pour tout, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, on voit arriver très tardivement de l'utilisation des ossements dans l'industrie lithique des Néandertaliens et des Néandertaliennes. Mais oui, a priori, tout pouvait être consommé.
Ouais. Et le végétarisme alors? Parce que certaines études montrent qu'il y a eu aussi du végétarisme. Ça voudrait dire quoi? Que vraiment, c'était le régime alimentaire d'une population néandertalienne?
Alors là, vous rentrez dans le débat entre spécialistes. C'est-à-dire que
ou c'était occasionnel, a priori.
En fait, pour moi, la seule méthode qui vous permet vraiment de quantifier la proportion de viande et de plantes dans une alimentation, c'est par les méthodes biogéochimiques, où on va véritablement avoir accès à ce qui est rentré dans le corps et ce qui a constitué nos ossements et nos dents. Après, on a plein d'autres manières de regarder ça, et notamment aller voir le tartre dentaire. Et c'est là-dessus, je crois, que se basent ces travaux. Malheureusement, parfois, on a des biais et tout n'est pas préservé, tout n'est pas capturé par ce tartre et ça peut biaiser des estimations.
Ouais. On va y revenir dans un instant avec aussi la consommation de végétaux avec la viande, quel type d'ailleurs de végétaux, et puis ce que ces études peuvent nous apprendre également de notre lien avec nos ancêtres néandertaliens. Clervia Jaouen, vous êtes notre invitée et vous répondrez également aux questions et aux messages qui arrivent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Si nous ne consommions que des aliments crus, comme les autres espèces animales, entre collecter la nourriture et l'assimiler, s'alimenter nous occuperait chaque jour pendant près de 9h30. Mais l'utilisation du feu
va permettre de faire sauter un verrou majeur en termes de nutrition. Le feu permet de consommer des aliments coriaces ou jusque-là indigestes. Mais surtout, si dans le processus de digestion, les aliments crus ne libèrent que 30 à 40% de leurs nutriments, les chauffer, les cuire, permettent au corps de transformer en nutriments utiles et en énergie quasiment 100% de ce qu'il ingère.
C'était un extrait d'un documentaire d'Arte dans les cuisines de la préhistoire de Charles-Antoine de Rouvre en 2022. Clarivia Jaouen, on parle avec vous de l'alimentation des humains préhistoriques, en particulier de celle de Néandertal. Est-ce que le feu a été pour Néandertal d'abord une utilisation courante, voire un avantage évolutif ou pas par rapport même à Sapiens après?
Eh bien, on l'a entendu dans votre extrait, effectivement, au niveau énergétique, ça va être extrêmement intéressant de cuire les aliments. Et on sait que ça a été utilisé, effectivement.
Donc, Néandertal cuisait, ça, on peut en
alors,
être à peu près sûr.
Peut-être pas toujours.
Ouais.
Peut-être pas toujours. Je prends l'exemple du site de il me semble que c'est à La Ferracie, où on peut voir la présence de foyers dans les niveaux qui vont être les épisodes les plus chauds. Et dans les niveaux froids, de façon contre-intuitive, c'est là où on ne voit pas de traces de foyers, possiblement à cause du coût du feu. Si vous voulez faire du feu, il faut aller chercher du bois sec et ça a un coût énergétique de réaliser ça. Donc on sait qu'il y a eu de l'utilisation et de la maîtrise du feu, puisque dans le Tartre dentaire, par exemple sur les sites de Spi en Belgique ou de Chanidar, donc en Irak, Kurdistan, on voit des traces d'amidon qui ont été cuits.
Donc chez Néandertal, hein ?
Chez Néandertal.
Ouais.
Et de nouveau sur ce site également, il y a eu, je vous en ai parlé, ces restes carbonisés qui viennent de plantes.
Oui, alors justement, ils sont exploitables, ces extraits carbonisés de végétaux ?
En isotopie...
Comment on arrive à en tirer des informations? C'est incroyable, quand même.
Alors, sur ce qui est carbonisé, là, il faudrait le demander à mes collègues. Je ne suis pas sûre de comment ils ont pu le reconnaître. Mais en tout cas, dans les plantes, on a parfois ce qu'on appelle des phytolithes. Donc, c'est quasiment du caillou. Et donc, ça résiste bien au feu. Et on peut identifier parfois des espèces ou des groupes de plantes qui peuvent être consommées.
On va écouter un nouvel extrait de ce documentaire que nous citions tout à l'heure autour de l'alimentation justement des Néandertals, et là il s'agit de pignons.
Les restes végétaux sont généralement dégradés à cause des bactéries, des champignons, etc. Et grâce à la carbonisation, ils se conservent pendant des millénaires dans les sédiments archéologiques. Ce que faisaient les Néandertaliens ou les Sapiens, c'était de récolter le pignon en hiver, parce que la pomme de pin est mûre, mais fermée, et c'est pourquoi ils la jetaient dans le feu, pour que l'effet de la chaleur ouvre la pomme de pin et qu'ils obtiennent d'un seul coup une centaine de pignons. Beaucoup plus efficace que de les récolter un par un sur le sol. Donc, une poignée quotidienne de pignons, c'est très sain, et c'est ce que faisaient les Néandertaliens.
Voilà l'archéobotaniste Tina Bardal qui parlait encore une fois d'un site au Portugal. Alors là, on est sûr donc qu'on avait une consommation de végétaux. Est-ce qu'on a une idée de la variété justement des végétaux qu'ils consommaient ou pas ?
Ce qui a l'air de se retrouver régulièrement, c'est la consommation de plantes féculentes. Donc, ça peut être des graminées, donc des céréales sauvages,
ouais.
ou bien d'autres plantes du type... je ne saurais pas vous dire, en fait, des légumineuses, mais quelle variété, je ne saurais pas vous dire. Et puis, on a des choses un peu plus originales. À Spi, on a des rhizomes de nénuphars.
Donc, en Belgique, toujours.
Voilà, toujours en Belgique. Et puis, de nouveau, à Chani, d'art, on a des dates qui ont été retrouvées. Donc c'est pour donner quelques
exemples. Ça c'était cuit ou pas alors? Qu'est-ce qu'on sait aussi du mode d'utilisation?
Donc les céréales, on a des traces de cuisson. Pour le reste, je ne suis pas sûre qu'ils soient capables de le dire. C'est juste ce qui a été piégé dans le tartre dentaire. Et puis comme on l'a entendu dans l'extrait, en fait c'est très rare qu'on ait de la préservation de plantes, puisque ça va se dégrader. Et donc on a ces quelques exemples par-ci par-là et on n'a pas tellement d'éléments au final. Il peut avoir aussi des traces de pollen dans les couches, mais encore faut-il que ce soit du pollen de plantes qui ait véritablement été consommé.
Ouais. Et concernant le cannibalisme, qu'en est-il, s'il vous plaît, Clarivia Jaouen? Parce que c'est une question qui revient toujours au sujet de Néandertal, parce qu'on sait qu'il a pratiqué le cannibalisme.
Mm-hmm. C'est effectivement sur de nombreux sites, on trouve des traces de cannibalisme en France, en Espagne et aussi au Proche-Orient.
Ouais.
Donc ça a l'air assez général, c'est pas systématique. Après, dans mon domaine de spécialité, je suis bien embêtée pour vous répondre, puisque probablement, si Néandertal a réalisé du cannibalisme, c'est vrai qu'isotopiquement, on pourrait voir des valeurs extrêmement élevées, qui seraient, puisque ça s'élève à chaque fois à chaque élévation dans la chaîne alimentaire. Mais c'est très peu probable que c'ait été quelque chose de fréquent.
Qu'est-ce que ça nous apprend finalement, toutes ces affaires d'alimentation, quand on est comme vous, spécialiste des isotopes, ou qu'on veut donner des informations aux préhistoriens et préhistoriennes? Qu'est-ce que ça permet de savoir, en tout cas sur notre histoire passée?
Alors c'est toujours intéressant parce qu'on peut, ça nous permet déjà de comparer nos résultats entre spécialités. On a les archéozoologues qui vont travailler sur les restes présents dans les couches, et on a toujours ces questions aussi de saisonnalité, de fréquence des consommations au cours du temps. Mm-hmm. Avec les isotopes, on va voir de manière générale, les archéologues qui vont travailler sur une couche donnée, ça va être pendant la période de l'occupation du site. Donc déjà pour les modes de vie, le quotidien, ça nous apporte beaucoup. Après, pour
sur la répartition des tâches, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que culturellement aussi, ça puisse nous donner des indices?
Ça pourrait nous donner des indices parce que, par exemple, on observe parfois entre les hommes et les femmes des différences de consommation en protéines animales donc sur notre espèce, Homo sapiens.
Oui.
C'est encore extrêmement compliqué de répondre à cette question pour Néandertal, parce que la plupart des analyses isotopiques qui ont été faites, c'est justement sur des dents ou des restes qu'on pouvait détruire. Et donc parfois, ce sont des fragments isolés, et donc on n'a pas la détermination des sexes des individus. Et souvent, on n'a aussi que quelques individus par site, donc ça va être compliqué de comparer.
Ce sera intéressant de répondre, mais il est possible
qu'on y arrive dans le futur.
Très bien, on vous fait confiance. Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Gilles demande, Claire Viajaouen, est-ce que les dents sont des vestiges de Néandertal que l'on retrouve fréquemment? Sinon, ça doit être assez compliqué d'avoir les autorisations pour les détruire, demande-t-il. Comment ça se passe?
Eh bien, en fait, il y en a pas mal, je dirais. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile d'obtenir les autorisations pour les détruire. Et c'est normal, puisque c'est quand même des vestiges qui restent rares et qui sont extrêmement précieux. Mmh. Et pendant longtemps, nos techniques ont été très destructives. Donc, il a fallu aussi améliorer nos techniques pour qu'aujourd'hui, on ait plus de facilité à obtenir ces autorisations.
Patricia demande si vous avez pu constater un état plus résistant ou plus fragile des dents que vous avez étudiées en fonction de l'alimentation.
Alors,
est-ce qu'une dent de carnivore, par exemple, c'est plus solide qu'une dent de végétarien néandertalien?
En fait, au niveau de Néandertal, je dirais que généralement, ce que j'ai étudié, c'était que de la carnivorie, donc il n'y avait pas. Je peux pas
d'éléments de comparaison.
Mais a priori, l'épaisseur de l'émail dentaire ne va pas changer sur des échelles de temps aussi courtes. Par contre, les dents de carnivore ont un émail dentaire beaucoup plus fin que celle des herbivores.
Marc demande, en vous écoutant, je me pose une question. Est-ce que le régime de Néandertal était si éloigné que ça, que celui d'Homo sapiens?
Eh bien, pendant longtemps, on a pensé, c'est une excellente question, pendant longtemps, on a pensé que oui, et que Sapiens était un spécialisé dans la pêche, alors que Néandertal était plutôt spécialisé dans la consommation de ressources terrestres. Et en fait, on a une nouvelle méthode isotopique sur les acides aminés, les petites briques qui composent le collagène, et ça nous a permis de montrer qu'on s'était trompé et que les alimentations se ressemblaient énormément quand elles étaient dans des environnements similaires.
Lou demande, est-ce qu'on sait si les femmes néandertaliennes chassait aussi, et si ça influençait les menus, entre guillemets?
Ça, c'est de nouveau une excellente question. Dans les sociétés qui reposent très peu sur la cueillette et beaucoup sur la chasse, on voit une participation des femmes à la chasse, mais c'est pour l'espèce humaine. Ce qui est intéressant, c'est pour Néandertal, a priori, il n'y a pas de différence de musculature entre les hommes et les femmes. Les deux sont vraiment des musculatures développées, donc ce serait possible.
Patricia nous dit, je m'étonne que ces individus consomment tellement de grands mammifères, ce qui n'est pas des petits comme les lapins, les rongeurs ou les oiseaux, vous le disiez, qui me semblent quand même plus faciles à chasser, voire à capturer.
eh bien, on voit des consommations de lapins, notamment sur le site de Gabaza. Donc
des
ça
oiseaux aussi, hein, vous le disiez.
Des oiseaux, mais c'est un site par-ci, par-là. Quand même, ce qui ressort souvent, c'est des herbivores assez imposants.
Merci beaucoup, en tout cas, Claire Viajaouen, d'être venue nous parler de vos travaux si particuliers, si intéressants autour de l'alimentation des humains préhistoriques. Merci d'être venue au micro de la Terre au Carré.
Merci à vous.
Merci à Jean-Philippe Verret qui a préparé aujourd'hui ce dossier.